Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Une alimentation qui est à la peine un peu comme ma gorge ce midi, une alimentation qui doit faire face à des fléaux et à des menaces de tous bords, la sécheresse, la guerre, les maladies, pour ne citer que les principaux, conséquences immédiates, des pénuries et une augmentation des prix qui touche directement le portefeuille des producteurs et des consommateurs. Dans la filière bio en particulier, l'ambiance est morose. Cette année, dans la grande distribution, les ventes se sont tassées, l'inflation poussant les consommateurs à revenir aux produits conventionnels moins chers. Reste la vente en direct et les circuits courts qui continuent de faire leur chemin. Encore faut-il que les agriculteurs ou les paysans, comme on disait avant, puissent continuer de faire leur métier, qui est avant tout de nous nourrir au juste prix pour eux aussi. Comment sortir du cercle vicieux? Ce midi dans Les Bonnes Choses, gros plan sur une profession à travers une femme qui, tel David ou Sisyphe, se bat au quotidien pour incarner la relève paysanne. Cette femme s'appelle Noémie Calais, elle est éleveuse de porc noir dans le Gers et elle est notre invitée. Bonjour Noémie Calais.
Bonjour Caroline.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses. Vous signez avec Clément Osé un livre intitulé « Plutôt nourrir », on sent le manifeste, « Plutôt nourrir » aux éditions Tana. Et puis parce qu'au fond, la question que pose cette profession aujourd'hui, si on élargit la focale, revient à se demander comment nourrir toujours plus de monde tout en faisant un modèle agricole respectueux des terres et des animaux qui vivent dessus, qu'ils soient humains ou non humains. Pour qu'on mange mieux, nous avons proposé à Gabriella Morenet-Calmont, co-directrice de la fondation Terre de Lien, qui achète des terres agricoles pour les louer à des agriculteurs et des agricultrices qui respectent certains principes éthiques et écologiques, de nous rejoindre. Bonjour à vous Gabriella.
Bonjour Caroline.
Et bienvenue.
Merci de l'invitation.
Je vois aucune autre possibilité de fréquenter un peu un plaisir d'être dans cette société que de travailler la terre, vivre avec les animaux, avec les végétaux, et une volonté aussi de sortir de cette société industrielle, en fait, qui est pour moi mortifère, étouffante. C'est pour ça aussi qu'être paysan, pour moi, c'est une lutte, c'est un combat. C'est forcément être au premier plan du conflit qu'il y a à mener avec cette société, si on veut sortir de cet étouffement, quoi, en fait.
Voilà, Noémie Calais, vous vous reconnaissez dans ce qu'a dit cet éleveur qu'on entendait, c'est un extrait d'un reportage diffusé sur France Inter intitulé « Les malfrats ». Est-ce que pour vous, être éleveuse, c'est un combat ou bien c'est plutôt un pari ?
Je ne pensais pas au départ, en m'installant agricultrice, que ça allait être un combat. Moi, j'avais une visée tout à fait positive qui était celle de me reconnecter à la nature, de bien vivre moi-même pour produire une nourriture saine, qui soit bonne, qui soit joyeuse et nourrir d'autres personnes de cette manière-là. Mais force a été de constater qu'au fil des années de mon installation agricole, je me suis retrouvée à, effectivement, comme le dit l'éleveur dans votre témoignage, être plutôt dans une dynamique de lutte. Ça peut être une lutte quotidienne contre les éléments, un corps à corps avec la nature, avec l'animal, avec les charges lourdes, avec son propre corps et les limites qu'il nous impose parfois, mais également une lutte réglementaire. On se retrouve en tant qu'agriculteur, qu'éleveur, soumis à des tas de normes, des tas de contraintes que l'on subit, mais que l'on ne choisit pas et qui sont souvent totalement déconnectés de la réalité de nos pratiques de terrain qui sont faites par et pour l'agro-industrie. Donc je trouve ça très pertinent ce que cet éleveur a apporté dans son témoignage. C'est vraiment une lutte qu'on ne souhaiterait pas mener, mais qu'on est obligé de mener.
Dans votre cas, c'est une reconversion, hein, puisque vous avez un parcours plutôt de grande école, Sciences Po, hein, une carrière internationale que vous avez commencé de faire, à Londres notamment. Et puis, vous vous êtes donc tourné vers l'élevage de cochons dans une petite ferme du Gers. Pourquoi avoir décidé de vous lancer dans l'élevage de porcs et pourquoi ces porcs-là ?
Ça a été une rencontre un peu par hasard. Lorsque je vivais encore en Angleterre, je passais toutes mes vacances dans une toute petite ferme qui était celle des parents de mon petit ami de l'époque. Et on côtoyait à peu près tous les animaux de ferme en petite quantité. Et nous avons rencontré les cochons. Et en fait, quand on ne savait pas où on était toujours dans l'enclos des cochons parce qu'on a trouvé que c'était des animaux particulièrement sociables, joueurs, intelligents, avec une très forte intelligence émotionnelle. Ce sont des animaux qui vont beaucoup interagir avec l'humain. Beaucoup parler, je dis parler parce que j'aime bien dire qu'ils parlent, ils communiquent, ils ont toute une palette d'expressions et sont des animaux très agréables, très sociables. Et après, je suis arrivée dans le Gers complètement par hasard au fil des expériences agricoles et comme la plupart des gens qui mettent les pieds dans le Gers, ils sont assez charmés parce qu'ils y trouvent par la beauté des paysages, la qualité de la nourriture et la qualité des liens humains qui s'y trouvent. Donc j'y suis restée. Et la race locale là-bas, c'est un porc noir. Et j'ai décidé de travailler avec ce porc-là en particulier parce qu'il appartenait à son terroir.
Combien vous en avez aujourd'hui ?
Au début de l'année, je vous aurais répondu que j'avais une soixantaine de porcs à l'engraissement. Mais j'ai réduit mon cheptel tout au long de l'année pour des raisons économiques et des raisons d'équilibre personnel, notamment en lien avec la mort et l'abattage. Et j'en ai désormais une quinzaine à l'engraissement, mais 8 truies qui me donnent des porcelets toute l'année.
Ils sont en plein air,
vous les
nourrissez biologiquement, mm-hmm. je ne sais pas si on le dit comme ça, en tous les cas vous êtes en bio.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez vu des cochons d'élevage, parce que vous êtes passé aussi, en tous les cas, parmi les exploitations agricoles intensives avec les poules, mais on sait tous aujourd'hui hein, ce qui arrive aux cochons d'élevage. Est-ce pour cette raison-là, et là aussi un combat contre ce que vous avez vu, que vous avez choisi de le faire en bio ?
Pour moi c'était absolument... C'était une évidence d'élever mes cochons dans le plus grand respect de leur mouvement naturel, de leur physiologie. Un cochon, ça a besoin d'interagir avec d'autres cochons et d'aller dehors et de retourner le sol. Il a un groin qui est son organe de perception du monde et il retourne, il fouine, il fouisse, il passe sa vie à faire ça. Et ce besoin fondamental d'exploration du monde par le groin et par le reste de son corps, évidemment, est nié dans des élevages intensifs. Le cochon est à ce moment-là entassé, sans accès à l'air naturel, sans accès au sol, bien évidemment. Et il est en état de stress physiologique intense. Donc pour moi, c'était une évidence totale, si je devais avoir des animaux, de les élever dans un environnement qui soit au plus proche de leur naturel et qui les respecte fondamentalement. Parce que quand on respecte l'animal, on respecte aussi l'humain qui s'occupe d'eux et on respecte l'humain qu'on va nourrir derrière.
Est-ce que c'est pour toutes ces raisons-là, Noémie Calais, que vous vous dites paysanne aujourd'hui ? Parce que c'est vrai qu'on pense agriculteur, agricultrice, on pense aujourd'hui celui qui produit des choses, qui produit, d'ailleurs écrivez-vous dans votre ouvrage, qui produit des choses, mais on a un peu oublié que c'est celui ou celle qui nous nourrit. Le paysan ou la paysanne relie l'humain à la terre et
absolument.
Donc à la nourriture.
Absolument, et il crée son paysage, il est ancré sur un paysage, il le modifie, il le transforme, il est libre de remettre ce lien au vivant tel qu'il le ressent, tel qu'il le perçoit. Et il a ce lien très particulier, effectivement, aux humains qui sont nourris derrière. Et en tout cas, le mot paysan, paysanne, je l'assume et je me sens bien avec. En revanche, le mot que je ne souhaiterais pas employer, c'est celui qui est pourtant le mot officiel de chef d'exploitation. Ça, très clairement, c'est le mot officiel, mais je ne me sens pas comme une personne qui exploite la nature, l'animal et le reste de son environnement.
Gabriella Morinet-Calmon, vous écoutez Noémie Calais, vous aussi à Terre de Liens dans votre fondation, vous considérez que vous soutenez plutôt des paysans, des paysannes que des chefs d'exploitation et parce que l'agriculture et l'alimentation sont sœurs et on a un peu tendance à l'oublier, c'est ça l'idée ?
Complètement, complètement. Nous, notre vocabulaire c'est paysans et paysannes, fermiers ou fermières. Je pense qu'on n'emploie pas non plus le terme de chef d'exploitation. Et oui, alimentation et agriculture sont sœurs. On a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes
et oui.
Quand on dit qu'on a besoin de terres agricoles pour se nourrir. Mais c'est la réalité aujourd'hui. Et pourtant... Tous les ans, on perd l'équivalent de la surface nécessaire à nourrir une ville comme Le Havre en France. Tous les ans. Donc on peut se demander si on est bien conscient collectivement de l'importance des terres agricoles dans une étape hyper importante de notre vie en tant qu'humain qui est de se nourrir.
En quelque sorte, on peut aller plus loin dans les chiffres parce qu'en 1952, les surfaces agricoles couvraient 72% du territoire. Aujourd'hui, on est plutôt qu'à 52%. Donc, c'est un peu l'idée qu'on manque de terre. C'est un peu l'idée que la population augmente, mais que les surfaces nourricières dont on a besoin baissent. Et là, Terre de Liens est là pour nous sauver, d'une certaine façon.
On aimerait bien sauver. Non, en effet, les terres agricoles, elles disparaissent. Et les paysans et paysannes aussi avec. Donc, dans la même veine, on a 400 000 dans la nomenclature et dit par l'INSEE, chefs d'exploitation aujourd'hui en France. Mais il nous faudrait, selon Terre de Liens, 1 million pour nous nourrir. Donc, on a des phénomènes où on voit la terre agricole qui disparaît, les fermes qui s'agrandissent et le nombre de paysans qui diminue.
Oui, c'est ça, il y a la disparition de fermes également. Et c'est pour ça que Terre de Liens peut aider certains paysans et certaines paysannes comme Noémie Calais à s'installer. Parce que c'est vrai que c'est une question que j'allais vous poser aussi, Noémie Calais, comment on fait pour s'installer quand on est toute seule, qu'on arrive de Londres et qu'on connaît pas forcément la façon dont on fait les démarches. Là, on se tourne vers Terre de Liens, c'est ça l'idée ?
Mais moi, je ne me suis pas tournée vers Terre de Liens tout de suite. J'y serais certainement venue après, mais le destin m'a menée sur la route d'un collectif agricole, un collectif fermier, autour d'une agricultrice qui arrivait...
Collectif des Arbolets ?
Absolument, oui, c'est ça. Autour d'une agricultrice qui arrivait, elle, en fin de carrière et qui avait vocation à transmettre sa terre agricole. Et son fils a décidé, lui, de venir faire un élevage en bio de chèvres, de brebis, de transformation fromagère. Mais il a dit, je vais venir sur cette terre, mais je ne vais pas le faire tout seul. Moi, ce que j'aime, c'est être avec plein d'autres gens, plein d'autres jeunes. Et on va venir à plusieurs et prendre des morceaux de cette terre. Donc, sur les 100 hectares de terre que cette exploitante agricole, cette agricultrice possède, il y en a déjà une bonne soixantaine qui ont été repris en fermage, c'est-à-dire en location. Donc j'ai eu cette chance de ne pas devoir investir dans le foncier directement. Mais c'est un coup de chance. Des personnes comme ça, il y en a peu qui sont prêtes à vous donner la chance de s'installer sur leurs terres agricoles et de transmettre de cette manière-là. Donc Terre de Liens remplit un peu cette fonction-là pour aider les jeunes qui viennent d'ailleurs, qui sont ce qu'on appelle hors cadre familial, à s'installer en agriculture sans avoir besoin de s'endetter sur le foncier pendant 20 ans. Parce que ça va être juste le premier investissement, mais il y en aura plein d'autres dans notre vie agricole. Des investissements.
Racontez-nous, Gabriella Morin-Calmon, comment fait Terre de Liens pour aider ces personnes qui veulent s'installer? Ça fait 20 ans qu'existe Terre de Liens,
Qu'on existe. Vous avez bien présenté au départ, nous on achète la terre agricole, le foncier, on les met à disposition à des paysans et paysannes qui pratiquent une agriculture respectueuse de l'environnement.
Donc il y a des critères?
Il y a des critères pour s'installer, mais le principal c'est produire de l'agriculture nourricière en bio. On va dire, à minima en agriculture biologique. On a installé aujourd'hui, depuis 20 ans, 600 paysans sur 300 fermes, ce qui nous a permis de préserver 7000 hectares en France, ce qui est une très bonne chose, c'est super.
Mais c'est pas assez, vous dites.
C'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant, ça reste une goutte d'eau par rapport à la fois au nombre de fermes qui disparaissent tous les ans, et aussi aux besoins actuels. Donc, comme Noémie, 70% des personnes qui souhaitent s'installer aujourd'hui sont des NIMA, des non-issus du milieu agricole. Et pour ces personnes qui ne sont pas potentiellement héritières du foncier, de la terre agricole, l'accès à la terre, c'est le principal frein pour l'installation. Si on va dans les calculs, on peut se dire qu'en moyenne, un hectare, il coûte 6000 euros. Et si en moyenne, on a besoin d'entre 30 et 40 hectares pour s'installer, ça dépend vraiment de quelle production. Mais si on fait une moyenne, eh ben déjà, il faut arriver avec un ticket de 200 000 euros pour s'installer. À quoi on ajoute des infrastructures, le matériel. Noémie est là pour un témoignage.
Des mises aux normes, exactement. Des mises aux normes incessantes.
Voilà. Donc c'est dans le renouveau de l'agriculture aujourd'hui que nous, à Terre de Liens, on croit, ça passe par des paysannes comme Noémie. La principale lutte, c'est la protection et le partage du foncier agricole. Et c'est là où on agit.
Et c'est là que le collectif est important pour vous, d'autant que, Noémie Calais, vous avez choisi, c'est vraiment un choix, de faire tout toute seule. C'est-à-dire de la naissance des porcelets à la vente des produits. Est-ce que c'est un vrai choix ou c'est une question de coût de production ?
Il y a les deux. Au départ, c'était le modèle économique que j'avais mis en place. Je m'étais dit, bon, bah, très bien, je fais tout toute seule, comme ça, je fais naître moi-même. Ça a du sens dans une dynamique paysanne. Je fais naître les petits porcelets, je les élève, je les engraisse, je les emmène à l'abattoir. Et puis ensuite, peut-être qu'il vaut mieux découper soi-même plutôt que d'embaucher un boucher qui a un coût. C'est aussi un artisanat qui se fait rare, qui se paye. Et puis, c'est un artisanat que j'avais moins envie d'avoir dans les mains également, apprendre un savoir-faire et ce rapport à la matière viande qui est absolument passionnant. C'est dur, physique, mais c'est beau et c'est passionnant et il faut le préserver et le transmettre. Et puis, au fur et à mesure des saisons, je me suis rendu compte que c'était difficile et physique de tout faire soi-même. Simplement, mes marges sont très fines. Et cette année, avec l'augmentation des coûts de production qu'il a pu y avoir au niveau du grain, du pétrole, des bocaux, de tous ces matériaux, j'ai préféré réduire le cheptel plutôt que de céder des parties de ma production. J'aime découper moi-même. J'aime faire la transformation charcutière, elle me met directement en lien avec les clients, les consommateurs à qui je m'adapte. Je m'adapte à eux en permanence, je fais du sur-mesure pour eux. Et pour moi, c'est vraiment ce lien qui est cette connexion entre le client et mon travail de la terre. Il passe aussi par l'artisanat.
Depuis la rentrée, septembre 2022, avec l'augmentation du prix des matières premières, la sécheresse, les canicules, les gels encore avant, le dérèglement climatique qui provoque l'érosion, qui provoque des coulées de boue, les grippes épizooties, en particulier de grippe aviaire, vous souffrez beaucoup. De quoi souffrez-vous le plus? Est-ce que ça se ressent aussi dans vos liens avec les clients?
Les clients sont toujours, je trouve, en demande d'informations. Ils veulent savoir comment on va. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit heureux, qu'on vive bien notre métier et qu'on continue à apporter sur les étals de marché ces bonnes choses qui nous rassemblent parce que nos produits sont d'excellente qualité gustative et on en est fiers et on veut continuer à les faire et à les manger avec nos clients. Simplement, cette année, on a effectivement beaucoup souffert, notamment les éleveurs de volailles et les éleveurs en plein air. D'une manière générale, le plus dur à vivre, je pense, c'est l'injustice quand des normes nous tombent dessus et qu'on se rend compte qu'elles sont profondément inadaptées à nos problématiques et qu'elles ne vont pas résoudre le problème en question, comme dans le cas de la grippe aviaire. Quand cette injustice vient s'ajouter à des problématiques économiques, à une précarité liée à des augmentations de coûts de production très rapides, alors que nous, on est dans le temps long, bien là, ça devient très dur de tout cumuler. Donc, je pense que c'est le pire.
Gabriella Morin et Calmon, vous avez des retours de ces éleveurs, éleveuses que vous aidez à installer en termes justement de difficultés de rester, de durer une fois qu'on est installé?
Complètement. Les paysans qu'on installe sont, ils ont à peu près le même profil que Noémie et ils subissent, comme Noémie, tous les aléas d'une profession d'autant plus difficile quand on vient pas du milieu agricole et que peut-être qu'on n'a pas le même soutien de la profession, donc ça peut être différent selon les régions où on est et selon si on est entouré ou pas d'un collectif, comme c'est le cas de Noémie, mais oui, complètement. Nous, en agissant sur le foncier et en ayant sur la terre et en ayant une relation particulière avec eux, on met en œuvre tout un tas de dispositifs pour essayer de les aider, de les mettre en réseau avec des structures comme Solidarité Paysan ou pour les appuyer quand ils sont innovants et proactifs en protection de biodiversité et sur des projets qui touchent vraiment le patrimoine terre agricole. Mais oui, je dirais que oui.
Est-ce que vous pensez l'une et l'autre que le modèle économique, physique, social que vous vivez, Noémie Calais, que vous prenez, Gabriella Morin et Calmon, est généralisable? On a entendu ces derniers mois, notamment le président de la République, parler de souveraineté alimentaire. On a entendu que la stratégie européenne de la ferme à la fourchette avait été abandonnée parce qu'il fallait produire toujours plus et faire face aux pénuries, aux problèmes d'approvisionnement, etc. Donc ça va pas exactement dans le sens de ce que vous souhaitez, de vous appeler de vos voeux et que vous vivez pleinement, Noémie Calais.
Absolument, mais je pense que le recours à l'industrialisation pour essayer de résoudre des problèmes urgents, des problèmes environnementaux, écologiques, sociaux et d'autonomie alimentaire, cette industrialisation est vraiment la mauvaise réponse. C'est un modèle qui est mortifère, c'est un modèle qui a des externalités écologiques, sociales, absolument humaines, catastrophiques. On parle de circuits très très longs, on parle de grains qu'on va importer d'Amérique du Sud, de parcelles déforestées pour nourrir du bétail en France, du grain OGM, alors que ce n'est pas autorisé normalement sur notre territoire. Il y a vraiment beaucoup trop de dégâts causés par l'industrialisation, sans parler évidemment du bien-être animal dans des environnements où les animaux sont entassés. Ça, c'est une évidence. Donc je pense, et beaucoup d'études le montrent également, que le modèle de demain, si l'on souhaite nourrir tout le monde, c'est l'agriculture paysanne, l'agroécologie, qui va préserver nos sols. On le dit, le foncier, c'est la base, le sol, c'est la base.
Mais alors, il en faudrait beaucoup.
Il faut plus de paysans.
Il en faut un million.
Un million.
Il y en a 400 000 aujourd'hui.
On est en train de les perdre. Ouais. C'est sûr, dans le livre de Noémie, que j'ai pu lire quelque part ce matin, vous faites mention avec Clément à Terre de Liens, on a un calculateur qui s'appelle Parcelle, qui est en ligne et qui nous montre combien de paysans, combien d'hectares de terres agricoles il nous faut pour nourrir la France par des paysans en France. Et c'est ce modèle, et moi je suis intimement convaincue qu'il est généralisable, il suffit juste de la volonté politique. On est passé dans l'avant-guerre d'une agriculture familiale à une agriculture industrielle dans l'après-guerre. C'était une volonté politique. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins sur qu'est-ce qu'on veut faire en agriculture maintenant, quel est le modèle qu'on veut aujourd'hui. Donc avec un peu de volonté politique, on peut inventer un modèle qui, à mon avis, n'est pas un retour en arrière sur l'agriculture familiale, c'est un modèle d'avenir qui prend en compte des aspirations des nouvelles, des nouveaux gens qui arrivent en paysannerie avec d'autres envies, qui n'est pas de s'installer en famille mais en collective ou en tout cas d'être entouré par des gens qui ne veulent plus voir des animaux quand ils partent en abattage, ne plus accompagner. Enfin, c'est sûr que on est obligé de généraliser un modèle plus écologique.
Oui, et ça fonctionne, parce que sur cette application sur Parcelle, on peut faire le calcul, Clément l'a fait, il l'explique dans le livre. Si on mange moitié moins de produits animaux, eh ben, ça tient sur la terre arable française. Et si on élève ces animaux et si on cultive nos produits de façon locale et biologique.
Et respectueuse de la bête.
Et respectueuse de la bête.
Ce qui montre bien, c'est l'un des intérêts de ce livre qui est à la fois très instructif, très touchant par votre témoignage direct, Noémie Calais, c'est de montrer aussi qu'il y a une troisième voie possible entre les viandards et les véganes, pour le dire très vite, hein, on n'est pas dans l'opposition manichéenne, si tant est qu'on ait un rapport particulier à la bête. Et on va voir ça tout de suite dans un instant. Il est 12h22 sur France Culture, on écoute Les Bonnes Choses.
Donc toutes les minutes, il y a une bête qui tombe. Nous avons quasiment une minute pour faire notre travail. Aussi bien pour celui qui est à l'assommage, que pour celui qui est à la saignée, que pour celui qui est à la découpe de la tête, celui qui vide, ceux qui enlèvent la peau. Donc moi, dernièrement, j'étais sur tout ce qui est fin de chaîne, c'est-à-dire que j'étais au vidage, j'étais au dégraissage, j'étais au fendage de la carcasse en deux. Dans mes débuts d'année, j'ai été tueur, mais quand ça vous regarde comme ça, rester de marbre, certaines personnes peuvent peut-être y arriver, mais pas moi. Faire ça toute une journée, tous les jours, je pense que l'effet psychologique est très fort.
C'est le témoignage d'un ouvrier dans un abattoir, extrait de la série Les paradoxes de la viande de Delphine Saltiel et Vincent Deck dans LSD sur France Culture. Vous vous y retrouvez, je pense, hein, Noémie Calais, dans ce que dit cet ouvrier dans un abattoir, puisque vous écrivez dans votre livre Plutôt nourrir que entre vous et les porcs noirs, vous avez passé un pacte autour de la mort. Parlez-nous de ce pacte.
Oui, en fait, il y a une dimension fondamentale à accepter, c'est qu'il n'est jamais facile de tuer son animal, jamais facile de l'emmener à l'abattoir. Et en fait, le pacte de l'élevage, de l'éleveur, de l'éleveuse, ça va être de se dire « je te fais naître, je vais avoir la main sur ta mort, c'est moi qui vais le décider, c'est moi qui vais le faire, et entre deux, je vais te donner la meilleure mort, la meilleure vie, pardon, possible, la plus respectueuse et la plus belle. » Ça n'empêche, ça n'enlève rien à ce moment très particulier de la mort. Et là, le gros souci, et on est nombreux à le vivre en ce moment en tant qu'éleveur, c'est qu'on n'a pas la main dessus. On est obligé, dans le droit français pour le moment, d'emmener notre animal à l'abattoir pour avoir le droit de le vendre derrière. Et c'est un crève-cœur. J'ai un sentiment de trahison lorsque je fais monter mon animal qui me fait entièrement confiance dans la bétaillère et que je referme la porte dessus. J'ai une heure de route à peu près pour aller à l'abattoir, et quand celui-ci ferme de façon temporaire, j'en ai quasiment deux pour aller à l'abattoir suivant, le plus proche, parce que les abattoirs ferment autour de chez nous, c'est une réalité. Et donc je dois décharger mon animal dans ce lieu qu'il ne connaît pas, qui est peuplé d'autres animaux, d'animaux qui ont été élevés dans des conditions industrielles, qui ont un stress très fort, et je dois le laisser là, partir, et ce n'est pas moi qui peux le tuer le lendemain matin. Ça, c'est très très dur à vivre. Il y a des collectifs en France qui travaillent sur l'abattage à la ferme, qui sont en train d'avancer là-dessus. L'abattage mobile, absolument. Et il y a une grande rencontre prévue début novembre pour faire le point au niveau national autour de la Confédération paysanne et de tous ces éleveurs qui travaillent dessus pour voir où on en est et voir ce qui peut être répliqué sur nos territoires. Et là, il y a urgence à ce qu'on puisse se reconnecter nous-mêmes, nous éleveurs, à la mort de l'animal, parce que c'est le seul maillon manquant. Et ça nous permet de donner la mort en conscience, parce que je l'ai fait, pour moi, pour être sûr de savoir tuer un animal et être sûr de pouvoir faire ce métier et sûr de pouvoir manger de la viande. Ça, c'était indispensable de faire cette expérience. Et je pense qu'on sera très nombreux à vouloir développer ces expériences d'abattage à la ferme dans le Gers. On en a besoin.
Noémie Calais, ce qui ressort de la lecture de ce livre, plutôt Nourrir, l'appel d'une éleveuse, c'est la dureté du métier que vous avez choisi de faire. La solitude, même si, encore une fois, il y a des collectifs, il y a le mouvement, qui est un mouvement citoyen, hein, Terre de Liens, vous appelez à la mobilisation de l'épargne citoyenne, c'est les aléas, de toutes sortes. C'est comme un sacerdoce. Qu'est-ce qui vous fait continuer ?
Et oui, étonnamment, malgré la dureté du métier, je ne retournerai pas en arrière, je ne pourrai pas reprendre un boulot derrière un ordinateur. Parce qu'en fait, on a une qualité de lien au vivant, de connexion à la nature, d'émerveillement permanent de ce que la nature nous offre. Mais chaque printemps, c'est un recommencement. Il y a des moments de poésie extraordinaires que j'aurais jamais pu vivre en restant en ville. Vraiment, c'est assez fabuleux. Et surtout, c'est les liens humains. C'est les liens humains, terre de liens, c'est aussi une terre de... C'est des liens humains, en fait, avec les gens qu'on nourrit, entre paysans également. Il y a une franchise, des rapports qui sont empreints de travail, de labeur, de respect, d'éthique, de franche rigolade aussi, si je me suis mise sur un collectif, évidemment, bien sûr. Et aussi de célébration de ces produits qu'on fait. Alors certes, on va parfois avoir du mal à les produire, ça peut être dur, mais par contre, quand on a nos produits dans l'assiette, derrière chaque produit, il y a une histoire, il y a un visage, et il y a une célébration et un partage.
Vous savez pourquoi vous le faites, au fond ?
Absolument.
Vous savez que ça a du sens ?
Absolument.
Et que vous faites ça pour qu'on retrouve le lien
à
la nourriture ?
Le lien à l'humain, à la nourriture, le lien au goût également, parce qu'on produit des produits fermiers inscrits dans notre territoire, dans notre terroir, et je vous assure qu'on est loin du goût standardisé qu'on peut trouver dans les supermarchés. C'est des choses qui vibrent, ça vibre de goût, de palpitations, de vibrations humaines et naturelles.
Il n'empêche que vous finissez votre ouvrage en disant qu'il faut sans doute diversifier la production et les activités. J'appelle les auditrices et les auditeurs à lire le livre, comme ça vous verrez de quelle activité, de quelle production vous parlez. Juste Terre de Liens, Gabriella Morinet-Calmont, tout un chacun peut participer ?
Tout à fait. Terre de Liens, c'est un mouvement paysan, et si on achète des fermes aujourd'hui, c'est grâce à un mouvement citoyen, pardon, et paysan aussi. Mais si on achète des fermes aujourd'hui, c'est grâce à des citoyens. Donc, on permet à des citoyens d'épargner, donc de acheter un petit bout de ferme de quelque sorte en mettant de l'argent à la foncière Terre de Liens. Et c'est avec ce capital qu'on achète les fermes et qu'on les met à disposition des paysans. Il est possible aussi de faire des dons, des legs ou des donations. Donc on a beaucoup de paysans qui partent à la retraite sans héritier, qui décident de faire don de leur ferme à Terre de Liens, ou qui nous lèguent un testament des fermes également.
On mettra évidemment le lien vers le site de Terre de Liens sur la page des Bonnes Choses. On mettra également, bien entendu, la référence à votre ouvrage, Noémie Calais avec Clément Osé, Plutôt nourrir, l'appel d'une éleveuse chez Tana Édition, et le lien vers le site des porcs de Noémie, puisque quand même, on peut acheter de la viande de porc.
À 20 km de la ferme.
Voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues dans les Bonnes Choses.
Merci.
Les Bonnes Choses s'écoutent quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Avec l'équipe, c'est Amboutata à la préparation, June Lopère à la réalisation et notre technicien du jour, le magicien Jean-Guy Lamège. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.